France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. La bande de Gaza est ce matin en état d'urgence après deux explosions en une heure cette nuit à deux postes de contrôle palestiniens. La première explosion a fait deux morts, la deuxième une victime. Tous étaient des policiers. Les forces de sécurité de Gaza ont ouvert une enquête et déjà l'armée israélienne assure n'avoir effectué aucun raid aérien dans les zones concernées. Le gouvernement brésilien se dit finalement ouvert à une aide étrangère pour éteindre les incendies en Amazonie, à condition toutefois que le Brésil s'occupe lui-même de cette aide et de la gestion des incendies. La souveraineté du Brésil n'est pas négociable, déclare le porte-parole du gouvernement. Quelques heures plus tôt, hier, le président Jair Bolsonaro avait demandé au président français Emmanuel Macron de retirer ses insultes, faute de quoi son pays refuserait les 18 millions de dollars proposés par les pays du G7. 9 milliards d'euros. Voici maintenant la somme récoltée en impôts et en amendes par l'État français ces 5 dernières années. Et cela grâce à une cellule mise en place après l'affaire Cahuzac pour régulariser les avoirs à l'étranger. Un service du fisc a permis aux repentis fiscaux de déclarer des fonds placés dans des pays qui pratiquent le secret bancaire. Plus de 47 000 dossiers ont été traités depuis 2014. Le ministre de l'Éducation nationale faisait hier sa rentrée. Jean-Michel Blanquer a ainsi réaffirmé les grandes priorités de cette année, avec toujours donc l'instruction obligatoire des 3 ans et non plus 6 ans, ainsi que la réforme du lycée. Il évoque là des aménagements possibles face à l'insatisfaction des enseignants. La rentrée, elle, aura lieu aujourd'hui pour le MEDEF avec son université d'été qui va s'ouvrir et qui ne se fera pas à Jouy en Josas, mais sur l'hippodrome de Longchamp. Le MEDEF veut afficher un renouveau en parlant cette fois égalité et climat.
La nouvelle émission quotidienne d'histoire sur France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Cette semaine, retour sur l'année 1989, une année charnière de Tiananmen à la Stasi, avec vendredi une balade radiophonique en direct de Berlin. Que reste-t-il de la RDA dans l'Allemagne d'aujourd'hui, 30 ans après la chute du mur? Nous en chercherons les traces.
Le cours de l'histoire, de lundi à vendredi à 9h05 et sur franceculture.fr. Chaque jour à 18h20, c'est le temps du débat sur France Culture. Emmanuel Laurentin.
Dans l'actualité, tous les événements ne se valent pas. Pour comprendre ce qui nous arrive, il faut choisir ses thèmes, mais aussi ses invités pour sortir du flot des commentaires et permettre à un vrai débat de s'installer. C'est ce que tentera de faire chaque soir le temps du débat en faisant se rencontrer le monde des idées et les acteurs de terrain.
Le temps du débat, Emmanuel Laurentin, de lundi à vendredi à 18h20 et sur franceculture.fr.
Nous sommes le mercredi 28 août, il est 6h03. Mercredi, qui dit mercredi, dit cinéma avec Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Au cinéma actuellement, on peut voir une troisième version du film culte de Francis de Ford Coppola, Apocalypse Now, soit 40 ans après sa sortie. Le film modifié et restauré pour l'occasion a pour titre Apocalypse Now, The Final Cut. Mais que nous dit cette nouvelle version, ou cette version définitive pour reprendre Coppola? Mon invité ce matin est le journaliste et écrivain Samuel Blumenfeld, que les lecteurs assidus du M, le magazine du Monde, connaissent bien. Spécialiste du cinéma américain, il est allé à la rencontre des plus grands acteurs d'Hollywood. Samuel Blumenfeld qui vient de publier un livre consacré à ce monstre de cinéma, et Marlon Brando. Titre de l'ouvrage, Les derniers jours de Marlon Brando, c'est édité par Stock.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
40 ans déjà, Apocalypse Now de Francis de Ford Coppola est sorti en 1979, accueilli par une palme d'or à Cannes et un succès au box-office. et qui est devenu tout de suite un film culte, hein, je veux dire, dès sa sortie. Et pourtant, c'était loin d'être gagné d'avance. Le tournage interminable de ce film, son coût astronomique avec un dépassement de budget de 18 millions de dollars, les catastrophes naturelles qui se sont invitées avec ce typhon qui a dévasté les décors, et puis surtout les états d'âme de Marlon Brando avaient nourri la chronique. Alors, c'était pas gagné d'avance, mais même l'histoire du film était très risquée, hein, puisque c'était un pari pour le moins audacieux que de transposer au cœur des ténèbres de Joseph Conrad dans le bourbier de la guerre du Vietnam. Alors, devenu un classique parmi les grands classiques du cinéma américain, tout le monde connaît la trame de ce film hallucinant dans Apocalypse Now. Le capitaine Villard, interprété par Martin Sheen, est missionné par la CIA pour mettre hors d'état de nuire le colonel Kurtz, joué donc par Marlon Brando, colonel devenu incontrôlable, pour ne pas dire fou, dans un coin de la jungle cambodgienne. Alors, après avoir proposé une deuxième version de son film en 2001, une version plus longue, une heure de plus que la version originale, voici que Francis Ford Coppola nous propose une troisième version cette année. Le film sort un peu partout en France aujourd'hui. Alors, au niveau de la longueur du film, c'est à mi-chemin entre les deux premières versions. Le film fait 3h02, hein, le film Final Cut. Bonjour Samuel Aboulmafel.
Bonjour.
Alors, vous qui avez vu les trois versions, est-ce que vous comprenez ce qui a pu motiver Francis Ford Coppola, qui n'arrête pas de remonter son film?
Oui. Et je dirais même que, si ça se trouve, d'ailleurs, il continuera de le remonter, en tout cas, au moins dans sa tête. Et on peut pas exclure d'ailleurs qu'il y ait un jour une autre version. Pourquoi cette pléthore de versions? Il faut bien comprendre que quand on dit que c'est la troisième version d'Apocalypse Now, en fait, non. Ça doit être peut-être la cinquième, la sixième ou la septième. Parce que déjà, la version qui avait été présentée au Festival de Cannes en 79 n'était pas la même que celle qui était sortie en salle quelques mois plus tard. Et avant même de présenter son film à Cannes, donc toujours en 79, Coppola avait fait plusieurs previews de son film à San Francisco, chez lui donc, et à Los Angeles, et c'était déjà une autre version. Donc, en fait, le film s'appelle fort heureusement Apocalypse Now, parce qu'Apocalypse, c'est vraiment le mot-clé qui permet de comprendre et le cœur du film et son fonctionnement. C'est vraiment Apocalypse à tous les étages. Donc Coppola n'a jamais vraiment trouvé la version définitive de son film. C'est un work in progress. Alors, souvent on se dit c'est un work in progress, c'est un film donc qui n'a pas vraiment trouvé son centre de gravité ou sa forme définitive. Donc c'est un problème. Non, c'est pas un problème, c'est un work in progress génial. Ça arrive.
Mais en 40 ans, parce qu'entre 79 et aujourd'hui, on peut dire que Francis Ford Coppola a évolué, qu'il voit pas peut-être les choses de la même manière. Quand je dis évoluer, on évolue dans la vie, il peut même changer d'opinion politique s'il veut, comme tout le monde. Est-ce que c'est ça qui a motivé aussi son envie de remonter son film différemment, d'introduire des scènes, puis de les enlever, Samuel Bonnefeld?
C'est un problème de rythme et aussi une question de relation passionnel à ces images. Le problème de rythme, c'est que nous avions dans la version d'origine de 79, nous avions un film relativement court. Je dis relativement en regard de l'ampleur de l'histoire. Quand ensuite sort Apocalypse Now Redux, on a un film qui est beaucoup plus long, qui est presque augmenté d'une heure. Ouais, augmenté d'une heure. Quels sont les ajouts principaux du film?
Et que disent ces ajouts, de Coppola, voilà, de l'époque, de comment il a évolué?
Absolument. Bon, ce que disent ces ajouts, c'est ces ajouts sont possibles parce qu'en fait, le film a eu sa carrière commerciale, a finalement échappé au désastre et donc a gagné de l'argent. Sachant que, bon, vous mentionniez tout à l'heure que c'était un film qui avait été largement hors budget, c'était le cas, mais il faut bien comprendre que ces dépassements de budget étaient assumés par Coppola, qui avait gagé tous ses biens. Donc il était véritablement en risque. D'ailleurs, bon, il était tellement en risque que pour son film suivant, Coup de cœur, Coppola a également mis une partie de son argent et a tout perdu, et a mis près de 15 ans à se remettre d'équerre. Ce qui se passait sur les différents ajouts, différentes versions d'Apocalypse Now, et ce qu'on a pu redécouvrir donc au moment d'Apocalypse Now Redux, ce sont principalement deux choses qui sont pas anodines. La première, c'était l'ajout d'une séquence complète. Enfin, c'est plus qu'une séquence d'ailleurs, c'est vraiment, c'est un morceau de film, et qui est le passage dans la plantation française, où donc le capitaine Willard et puis les autres soldats, donc dans leur traversée des ténèbres, arrive dans une plantation française, donc une plantation qui remonte donc à l'Indochine, et il y a une famille française donc qui est restée là. Et on se demande bien pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est que cette famille française, les comédiens sont Aurore Clément qui est l'époux de Dean Tavoularis, le décorateur de Coppola, et donc Christian Marquand qui est le meilleur ami de Brando. Enfin, il y avait une relation fusionnelle entre les deux, pour ne pas dire plus. Et donc, ce qu'était l'intention de cette séquence dans la plantation de Français, c'était de signifier que, avant que les Américains arrivent au Vietnam, il y avait déjà eu une autre force étrangère, coloniale, qui était les Français. Et donc, découvrir cela, c'était véritablement se demander, mais pourquoi après le passage désastreux des Français en Indochine et la manière dont ça tombe catastrophique dont ça s'est terminé, pourquoi est-ce qu'un autre pays occidental y a mis les pieds pour un résultat tout aussi négatif? C'était ça que voulait mettre en valeur Coppola, et sur un plan théorique, c'était fort bien vu, fort intelligent, et la séquence est d'ailleurs absolument magnifique. Elle est d'ailleurs sur un plan photographique, sur un plan esthétique, elle est très inspirée de Barry Lyndon. On voit bien que Coppola a été très marqué par la découverte du film de Kubrick, qui était assez peu aimé à l'époque aux États-Unis. Simplement, cette séquence, on peut véritablement argumenter qu'elle ralentit le rythme du film. Elle est un film à l'intérieur du film. Donc, film magnifique à l'intérieur d'un film grandiose, mais dans l'économie du récit, est problématique, et donc a disparu de la version Final Cut qui sort aujourd'hui dans les salles.
Et pour cette nouvelle version, à mi-chemin entre la version d'origine et la version longue, puisqu'elle ne fait que 3 heures, cette version intitulée Final Cut.
Donc, sont celles qui sortent dans les salles, celles qui sortent dans les salles en France aujourd'hui. Et il y a une autre suppression qui est très importante, qui est sur laquelle Coppola avait beaucoup insisté dans la version précédente. Ce sont les scènes avec Brando. Il y a quelques scènes, quelques passages avec Brando qui ont été supprimés. La raison pour laquelle Coppola avait ressorti tous ces passages avec Brando pour Apocalypse Now Redux, c'est que tout simplement, à l'époque, d'abord, Brando était encore vivant. Pour le coup, il s'agissait des derniers jours de Brando, même si ce n'était pas annoncé comme ça. Et surtout, on prenait conscience, et Coppola le premier, que le footage de Brando sur Apocalypse Now, c'est à bien des égards son dernier film. C'est la dernière fois que Brando occupe un véritable rôle dans un chef-d'œuvre. C'est fini. Après cela, on ferme la boutique. Et c'est comme si le film aussi avait pris en compte cela, de manière inconsciente, de manière heureuse, mais avait pris en compte le fait que Brando, qui détestait à ce point son statut de star, son métier d'acteur, allait mettre en point d'honneur à disparaître après ce film, qui est aussi un film sur une apparition, puisque Brando, véritablement, est une ligne de mire. C'est une figure totémique que le spectateur attend et va finalement découvrir, sachant que cette figure-là, en fait, est évanescente.
On écoute un bout de la bande-annonce du film, donc de cette troisième version d'Apocalypse Now, qui sort donc aujourd'hui dans toutes les salles de France, Final Cut. Et dans cette bande-annonce, commence carrément par Francis Ford Coppola expliquant les raisons de cette version.
Hello, I'm Francis Ford Coppola, and I present for you Apocalypse Now, Final Cut. I'm enthusiastic about the version because I realize, I want to make a version that I like. It's longer than the 1979 version, but shorter than Apocalypse Redux. And it's the one I recommend to you as my favorite. I invite you to enjoy this movie, Apocalypse Now, Final Cut. Thank you.
Apocalypse Now.
parle d'Apocalypse Now dans le réveil culturel, la dernière version, celle qui sort aujourd'hui en compagnie de Samuel Blumenfeld, qui publie chez Stock les derniers jours de Marlon Brando. Est-ce qu'on peut dire, Samuel Blumenfeld, que en 79, la guerre du Vietnam est très présente dans l'esprit de Francis Ford Coppola. C'est la guerre qui a marqué son époque, sa jeunesse, et que là, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la guerre du Vietnam, il propose, avec d'abord la version de 2001 et surtout cette version, une œuvre un peu plus globale sur la guerre, sur les ténèbres. Qu'est-ce que ça représente pour vous, d'ailleurs? Comment vous lisez aujourd'hui Samuel Blumenfeld, Apocalypse Now?
Alors, il y a un volet politique que vous soulignez, mais je dirais, alors il est important, et d'ailleurs il est particulièrement développé dans les scènes avec Brando, qui sont des scènes très politiques où le colonel Kurtz a un discours véritablement très argumenté contre la guerre du Vietnam. Je dirais néanmoins que Coppola ne m'apparaît pas comme un cinéaste très politique, au sens où ce n'a jamais été un cinéaste plus préoccupé que cela par la politique. C'est pas un reproche, c'est une constatation. Je pense que son impulsion sur Apocalypse Now est ce qui fait que le film nous fascine autant 40 ans plus tard et continuera à nous fasciner dans 40 ans. Il y a deux choses. Il y a d'abord un aspect très concurrentiel chez Coppola, en fait, et très compétitif chez tous les cinéastes américains. C'est que lorsque Coppola réalise Apocalypse Now, il est au sommet de ses possibilités. C'est le réalisateur qui a réalisé Les Deux Parrains, Conversation secrète. C'est l'homme qui domine le cinéma américain dans les années 70 et presque, on va dire, le cinéma mondial à cette époque. Et donc, pour lui réaliser Apocalypse Now, donc adapter Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, c'est mettre en œuvre, enfin réaliser le film que Orson Welles n'a jamais pu réaliser. Parce que Cœur des ténèbres devait être le premier film d'Orson Welles à Hollywood, juste avant Citizen Kane. Et pour différentes raisons, Orson Welles n'était pas arrivé à le mener à bien, alors qu'il était à un moment de sa carrière, au tout début de sa carrière, où il avait carte blanche pour tout. Donc pour Coppola, faire Apocalypse Now, c'était se mesurer au plus grand réalisateur américain de l'histoire et signifier qu'il l'avait fait mieux que lui. Le deuxième aspect qui est très important, qu'il faut bien garder en tête, c'est que lorsque Coppola réalise Apocalypse Now, donc un tournage sur plus d'un an dans la jungle aux Philippines, avec un nombre de catastrophes inouïes, des typhons, l'acteur principal Martin Sheen qui est victime d'une crise cardiaque, un film qui...
Sans parler des caprices de Marlon Brando, on y reviendra.
Voilà, sans parler de la gestion du cas Brando, qui a toujours été la gestion du cas Brando dans la jungle, ça demande beaucoup de doigté. Et l'idée de Coppola se conduit en aventurier. Nous sommes à une époque du cinéma, les années 70, une époque où le metteur en scène de cinéma est tout puissant, et donc se conduit en aventurier. Et donc l'idée sous-jacente d'Apocalypse Now, c'est d'aller là où d'autres cinéastes ne sont jamais allés, pour rapporter des images qui n'ont jamais été vues. Or, aujourd'hui, à l'ère du numérique, à une époque où tout est réalisé par ordinateur, eh bien, cette idée-là du cinéma, qui en fait remonte à ses débuts, sur les Frères Lumière, on envoie des émissaires dans le monde entier pour ramener des images du monde au monde. Eh bien, cette idée du cinéma lumière, cette idée également d'un cinéaste qui est un aventurier, eh bien, elle meurt avec Apocalypse Now. Et c'est ça qui nous fascine. Parce que ce film-là, nous ne le reverrons plus jamais.
Samuel Blumenfeld, je le disais, vous venez de publier chez Stock un livre passionnant, Les Derniers Jours de Marlon Brando. Je dis bien passionnant, et c'est pas une formule, mais je me garderai d'ailleurs de dire pourquoi, sinon de conseiller au lecteur de le lire jusqu'au bout, et même au-delà, jusqu'à la fin des remerciements de l'auteur, à la fin du livre. Voilà un livre très fourni en tout cas en informations, un portrait de l'immense acteur, alors qu'on ne le reconnaît déjà plus, le monstre Brando, en pachyderme mourant, Marlon Brando en vieille drag queen. En fait, il est très peu question, alors que vous citez tous ces films, hein, Samuel Blumenfeld, il est très peu question d'Apocalypse Now dans votre livre. Alors que, franchement, le Brando vieillissant dans sa maison de Mulholland Drive et une maison ouverte aux entrevents, hein, ressemble un peu à la fin du colonel Kurtz, devenu incontrôlable dans un coin de la jungle cambodgienne.
Alors, c'est assez juste. Il y a effectivement l'idée d'un personnage auréolé d'une dimension mythique, conscient d'ailleurs de cette dimension, et qui termine seul. Sauf que la différence, c'est que dans Apocalypse Now, le colonel Kurtz est sur son atoll. D'ailleurs, en fait, bon, un atoll, c'est quelque chose qui disait vraiment, ça disait quelque chose à Brando, puisque Brando avait son atoll dans le Pacifique, à Tahiti. Mais dans Apocalypse Now, Brando est à la tête d'une tribu. C'est un chef de bande. Brando, dans ses derniers jours, dans ses dernières années, c'est quelqu'un qui est véritablement seul dans sa villa de Mulholland Drive. En revanche, ce qui est assez juste, et là où il y a un syndrome américain que Conrad anticipe dans Cœur de Ténèbres, c'est l'idée que les États-Unis sont un pays jeune. Donc, c'est un pays où il n'y a jamais eu droit. Ça a toujours été une démocratie, donc il n'y a jamais eu droit. Donc, quand il n'y a pas eu droit, les rois en Europe, c'est ce qui se rappelle, c'est ce qui se rapproche le plus des stars que nous connaissons. Prenez Louis II de Bavière, eh bien, il termine seul dans ses différents châteaux. Eh bien, les États-Unis, le pays le plus puissant du monde, et donc les individus les plus puissants des États-Unis, bah, terminent souvent seuls dans leur Xanadu. Et donc, c'est ce qui est arrivé à Brando.
They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on this date with me. The pickings have been lush, and yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners, you might refuse to stay, and so the best that I can do is pray. Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Lucky if you've ever been a lady to begin with. Luck be a lady tonight.
C'était un grand comédien, un grand acteur, mais c'était pas un grand chanteur, on peut le dire, Samuel Blumenfeld, Marlon Brando.
Non.
Alors, on l'écoute, bien sûr, dans l'extrait du film de Joseph Malkiewicz en 1955, Blanche Colombe et Vilain Vaisseau, version française.
Ce qui n'est pas son meilleur film, ni celui de Malkiewicz. Ouais. Ça veut dire, c'est un film assez faible.
Ceci dit, dans votre livre, Les Derniers Jours de Marlon Brando, vous expliquez à quel point il choisissait ses films uniquement parce qu'il avait des problèmes d'argent.
Ah, c'est la carrière de Brando à partir des années 60, je dirais presque après Sur les quais de Kazan, qui est aussi la séparation avec son metteur en scène fétiche de référence, la carrière de Brando ensuite est strictement dictée par ses besoins financiers. C'est quelqu'un qui ne gère pas sa vie, qui ne gère pas son existence, qui ne gère pas ses finances, et qui donc, en fait, faut bien comprendre que chaque rôle de Brando, à partir du début des années 60, ça fait beaucoup de films ensuite, hein, vraiment. Eh bien, il les fait parce que ça correspond. Il prend scénario parce que ça correspond à un moment où il a besoin d'argent.
Et pourquoi Apocalypse Now? C'est parce que ça s'était bien passé avec Francis Ford Coppola, qui lui avait donné quand même la chance de revenir au cinéma avec Le Parrain.
Alors absolument, il fait Apocalypse Now, il accepte de le faire hein, parce que Coppola l'a sorti de l'oubli pour Le Parrain.
Ouais.
Au moment du Parrain, personne ne voulait de Brando. C'est Coppola qui s'est battu pour imposer Brando. Il a même d'ailleurs, le studio Paramount avait demandé à ce que Brando tourne un essai du film, ce que Brando ne faisait jamais. Et en fait, Coppola avait fait croire à Brando en fait, que l'essai qu'il tournait n'était pas un essai. Donc c'est dire à peu près, et donc il avait véritablement, sinon en fait Brando aurait disparu à la fin des années 60, purement et simplement sans Coppola. Et donc il avait accepté de tourner Apocalypse Now, bon, c'était une faveur offerte à Coppola. Sauf que bon, c'est environ 15 jours de tournage pour Brando, comme dans Apocalypse Now, donc il a beaucoup moins souffert que les autres comédiens, c'est-à-dire que Brando n'a pas du tout enduré l'odyssée infernale de toute l'équipe. Donc il n'est pas devenu fou, ou du moins s'il est devenu fou, c'est pas en raison du film de Coppola. Donc c'est 15 jours, dans cet atoll donc, où se termine Apocalypse Now, 15 jours où il arrive non préparé, il ne connaissait pas son rôle, il a pris le temps de travailler avec Coppola, et bon, pour $1 million, donc une somme astronomique, bon, bah, il accepte de tourner le film.
Samuel Blumenfeld, les derniers jours de Marlon Brando, un journaliste français qui va à la rencontre de la bête, on peut le dire, hein, puisque on l'appelait comme ça, Jack Nicholson, l'appelait comme ça son voisin Jack Nicholson. Ça tombe bien, Marlon Brando parle français. On va l'écouter justement dans une interview accordée à la télévision française en 1965. Il était, je crois, le seul à pouvoir dire à cette époque-là que les interviews de promo, c'est une corvée, qu'il le fait pour les studios et en gardant ce sourire.
Marlon Brando, pourquoi êtes-vous venu à Paris?
C'est parce que j'ai tapé le tambour pour Universal International Company.
Vous avez déjà un long passé derrière vous. N'êtes-vous pas fatigué de votre métier?
Oui, je crois. De temps en temps, tout le monde se fatigue de métier. Mais je suis dans une transition entre mon métier et... Je n'ai pas encore exactement trouvé le métier que je voudrais faire. Mais je crois que quand je finis mes films, je vais trouver quelque chose d'autre à faire.
Mais êtes-vous quand même satisfait de la tournure qu'a pris votre carrière?
On n'est jamais satisfait dans la vie, je crois. Toujours il y a les
disappointments.
Disappointements dans la vie. Et c'est difficile pour dire, oh oui, j'ai tellement satisfait. Impossible.
On a l'impression que le cinéma, c'était pas sa passion, Samuel Blumenfeld, en l'écoutant.
Absolument pas. C'est le drame et le paradoxe de l'individu Brando. C'est que il est investi d'un génie. C'est quelqu'un qui est génial dans son métier de comédien, qui est tout à fait conscient de l'être. Simplement, le drame, c'est qu'il n'aime pas ce métier pour lequel il est né. Et également, la spécificité de ce métier, c'est que vous dépendez des autres. Donc, aussi génial que vous soyez en tant que comédien, vous avez besoin d'un grand réalisateur. Or, Brando sait très bien qu'après 15 ans, mais il tombera plus difficilement sur de grands réalisateurs. Et ça le rend dingue.
Apocalypse Now, de Final Cut, même, c'est-à-dire le montage de Coppola. Dernier montage de Coppola, c'est un film qu'on peut découvrir au cinéma. Vaut mieux le voir au cinéma avant la sortie en DVD du film de cette version le mois prochain. Et en librairie, ce portrait sensible écrit par Samuel Blumenfeld, Les derniers jours de Marlon Brando. Tout est vrai dans ce livre, ou presque. Ça a été un plaisir de vous recevoir, Samuel Blumenfeld.
Merci beaucoup.
Le Réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Informer, comprendre, chaque jour, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
Je vous attends chaque jour de la semaine dès 7h pour 2 heures d'actualité, d'analyse et de commentaires en compagnie d'artistes, d'intellectuels et de journalistes de la rédaction de France Culture.
Les matins de France Culture, de lundi à vendredi à 7h et sur franceculture.fr. Elles nous émeuvent, nous forment, nous interpellent. La compagnie des œuvres sur France Culture. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Tous les grands classiques ont leur place sur France Culture. C'est pourquoi en cette rentrée, la compagnie des auteurs devient la compagnie des œuvres. Nous y parlerons de tout, de littérature évidemment, mais également de cinéma, d'art plastique, de musique et pourquoi pas d'architecture. Tout cela avec le même principe, raconter un créateur en partant de la vie et en allant vers l'œuvre.
Cette semaine, Stanley Kubrick, la compagnie des œuvres, de lundi à vendredi à 15h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Et alors qu'une partie de l'Amazonie brûle, l'île de Madagascar connaît aussi d'importants incendies liés à l'agriculture, une pratique habituelle dans le pays qui reste toutefois dévastatrice pour l'environnement. Dans un instant, nous irons sur place. Un négociateur britannique arrive aujourd'hui à Bruxelles dans l'espoir d'obtenir des concessions pour que son pays sorte de l'Union avec un accord. David Frost est un habitué de la politique européenne, son portrait à suivre. Et puis dans ce journal, vous comprendrez pourquoi les habitants de Langouette au nord de Rennes se mobilisent autour de leur maire. Hier, la justice l'a empêché d'interdire les pesticides sur sa commune. Et nous commençons donc ce journal en rejoignant Madagascar qui brûle autant ou plus que l'Amazonie en ce moment. Des incendies habituels provoqués par les agriculteurs pour utiliser les terres. Comme chaque année, ce pays, l'un des plus pauvres du monde, brûle donc. Et si les causes des incendies sont différentes de celles en Amazonie, les conséquences n'en restent pas moins catastrophiques dans ce sanctuaire pour une faune et une flore endémiques. C'est un reportage à Antananarivo de Sarah Teto.
Il y a 15 jours, Olivier Adirisson s'est rendu en voiture dans l'ouest du pays. 18 heures de trajet aller-retour traumatisante qu'elle a tenu à partager sur les réseaux sociaux.
J'ai été choquée. C'est impressionnant, toutes ces flammes. Ça allait jusque vers la route. Et ma première réaction, c'était de poster ces photos sur Facebook pour partager mon indignation. Indignation qui n'est pas toujours partagée. Certaines personnes trouvent ça encore normal ou banal ou justifie ces feux de brousse par les pratiques culturelles.
Et les raisons de ces pratiques sont essentiellement liées aux techniques agricoles encore très artisanales. Défrichement, culture sur brûlis, nettoyage saisonnier, charbonnage ou encore aide à la repousse de l'herbe dans les pâturages. Nzantou Razak Manarin, le président de l'Alliance Wargas, une organisation pour la préservation de l'environnement, regrette le manque de poigne des autorités pour endiguer un phénomène qui a empiré ces trois dernières années.
Si vous regardez sur la satellite Maudis, Madagascar brûle tous les jours dans cette saison. C'est la tragédie des biens communs. On se rejette les responsabilités parce qu'on ne sait pas si c'est la responsabilité du secteur forestier ou du secteur élevage ou de l'agriculture. Donc c'est cette solidarité gouvernementale aussi qui manque beaucoup et jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment eu de plan de lutte sérieuse contre les feux à Madagascar, alors que c'est le plus grand fléau de l'appauvrissement du pays.
À Madagascar, les auteurs de feux de brousse encourent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, mais dans les faits, la pratique reste tolérée. Ainsi, l'île rouge n'a jamais, hélas, aussi bien porté son nom.
Sarah Teto à Antananarivo pour France Culture. Des feux qui ravagent donc aussi l'Amazonie en nombre depuis le début du mois d'août. Hier soir, le Brésil s'est finalement dit ouvert à une aide financière venue de l'étranger pour lutter contre ces incendies. Le pays conditionne toutefois cette aide à la possibilité pour le gouvernement brésilien de contrôler ses fonds. Au moins 60 personnes sont mortes hier en Syrie dans la région d'Idlib où les combats perdurent entre l'opposition rebelle et le régime de Bachar el-Assad. Le régime a pu par l'aviation russe qui y a lancé une vaste offensive terrestre le 8 août dernier. Elle continue donc. Et c'est dans ce contexte qu'une délégation d'élus français du Rassemblement national est arrivée hier en Syrie. Une délégation emmenée par le député européen Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, rallié depuis au RN. Il plaide en faveur d'une reprise des relations diplomatiques entre la France et la Syrie. Il le disait hier soir à Stanislas Vazak.
La politique syrienne de la France, c'est une catastrophe depuis François Hollande. Voilà, c'est tout. La politique étrangère, ça consiste à regarder la réalité et par moments à discuter avec des gens qu'on n'aime pas forcément. La réalité aujourd'hui en Syrie, c'est d'abord une guerre civile horrible qui dure déjà depuis 8 ans. Une guerre civile où la population, les militaires ont été en première ligne et personne ne sait les vrais chiffres, mais on peut dire clairement qu'il y a à peu près 300 000 morts. Une guerre civile où la France, par moment, a armé les terroristes. Et donc aujourd'hui, cette guerre civile est en train d'être gagnée par le gouvernement légal de Syrie. Et il faudra bien discuter avec eux. Voilà, quand on me dit ce gouvernement est un régime qui ne respecte pas les valeurs démocratiques, vous avez raison. Mais est-ce qu'on ne discute pas avec l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'on ne discute pas avec le Qatar? Et aujourd'hui, si le combat contre Al-Qaïda et Daesh a été gagné, c'est bien sûr parce qu'il y a eu les forces kurdes, les forces alliées qui ont combattu au nord, mais c'est aussi parce que l'armée syrienne a été en première ligne et a gagné ce combat. Si le régime ou si le gouvernement syrien s'était effondré, qu'est-ce qu'on aurait aujourd'hui? On aurait un califat à Damas?
Le député européen du Rassemblement national, Thierry Mariani. Il faut repenser notre lien avec la Russie, car pousser la Russie loin de l'Europe est une profonde erreur. Ces mots sont ceux d'Emmanuel Macron devant les ambassadeurs de France hier. Il se redit ainsi favorable à une normalisation des relations avec Moscou. Le négociateur du Royaume-Uni sur le Brexit arrive à Bruxelles aujourd'hui. Il est missionné par le chef du gouvernement, Boris Johnson, qui, rappelons-le, souhaite quitter l'Union le 31 octobre prochain, avec ou sans accord. L'émissaire britannique doit tenter aujourd'hui d'arracher des concessions, notamment sur la question de la frontière irlandaise. Son point fort pour cela pourrait être sa fine connaissance de la politique européenne, Antoine Gignot.
C'est un homme de l'ombre, un habitué des coulisses. David Frost a passé au total plus de 20 ans au ministère des Affaires étrangères britannique, conseiller, diplomate, ambassadeur au Danemark dans les années 2000. Il maîtrise tous les rouages de l'Union européenne, mais reste un eurosceptique convaincu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Boris Johnson lui fait confiance. Il l'a rencontré lorsqu'il était ministre, il a travaillé avec lui jusqu'en 2018 et il partage, comme lui, la conviction que les Britanniques doivent s'éloigner de Bruxelles. Dans un article publié en 2015, il explique d'ailleurs clairement quelles sont pour lui les meilleures méthodes de négociation avec les 27. Il faut d'abord nouer des alliances avec d'autres pays pour avoir des appuis, dit-il. Il faut surtout ensuite faire croire à l'adversaire que ce que l'on réclame est parfaitement normal. Mais même s'il a de l'expérience et des réseaux, David Frost manque de temps. Il n'a qu'un peu plus de 2 mois pour proposer des solutions nouvelles au problème de la frontière irlandaise et pour briser l'unité qu'affichent depuis 3 ans les responsables européens.
L'Europe encore est un suspense entretenu par l'Élysée. Le nom du candidat français à la Commission européenne n'a finalement pas été dévoilé hier. Paris aimerait obtenir un dossier reflétant l'une de ses priorités politiques comme le commerce ou le climat. C'est ce que l'on déclarait à la présidence le mois dernier. Les soutiens au maire de Langouette en Ille-et-Vilaine se mobilisent après la décision du tribunal administratif de Rennes. Ils étaient hier devant la préfecture de région, n'acceptant pas la suspension de l'arrêté pris par le maire de la commune. Ils voulaient interdire l'épandage de pesticides à moins de 150 mètres des habitations. La justice lui refuse, mais il ne s'arrêtera pas là, Suzanne Chaudahy.
Le maire Daniel Cueff va faire appel parce que selon lui, ça tourne en rond.
Madame la ministre de l'écologie dit le conseil des ministres donne raison à monsieur le maire de Langouette. Et d'un autre côté, ce même gouvernement qui saisit le tribunal administratif pour suspendre un arrêté que madame la ministre juge comme un arrêté nécessaire à prendre à l'avenir.
Là, il y a une pancarte devant une maison. Pas de glyphosate sur le champ de patates.
Je m'appelle Eliane Misonard et je l'encourage vivement et je trouve justement qu'il a du cran d'affronter aussi toutes les difficultés.
Quelques mètres plus loin, Hélène Heuré habite une maison depuis 2010.
Voilà, on a envie de se sentir en sécurité. Quand quelqu'un épand et que les enfants jouent, on n'est pas rassuré.
Pourtant, les agriculteurs assurent qu'ils respectent les règles. Interdiction de traiter quand il y a du vent, utiliser des outils anti-dérive pour que les produits ne se propagent pas. Benjamin Blair va même plus loin, cet exploitant a des prairies à Langouette.
Non, c'est très bien de parler des pesticides, mais on sait que les gaz d'échappement provoquent également des cancers. Je lance un appel à Monsieur Cueff, interdire tout véhicule thermique à moins de 150 mètres de toute maison d'habitation.
Et selon l'agriculteur, les consommateurs n'achètent pas assez de produits bio pour que le modèle soit viable.
Suzanne Chaudjahi de France Bleu Armorique pour France Culture. La régularisation des comptes cachés à l'étranger a permis à Bercy de récolter près de 9,5 milliards d'euros en 4 ans. Ces impôts et ces amendes avaient été mis en place après l'affaire Cahuzac pour régulariser les avoirs à l'étranger. Plus de 9 milliards de gains donc pour l'État français. Le chiffre apparaît dans un rapport qui a été remis hier aux parlementaires. C'est sans aucun doute une première mondiale. Des cybergendarmes du Centre français de lutte contre la criminalité numérique à Pontoise ont réussi à neutraliser neutraliser un réseau informatique pirate appelé un botnet. Ce réseau permettait de prendre la main à distance sur près de 850 000 ordinateurs à travers le monde. En bref encore, ces accusations de l'hebdomadaire L'Express qui affirme que l'écrivain Yann Moix a publié des textes négationnistes lorsqu'il était étudiant. Et Yann Moix l'admet et il ajoute « L'âge de 20 ans, c'est fait pour se tromper. L'homme que je suis aujourd'hui en a honte. » La météo à présent de ce mercredi qui débute avec un ciel orageux dans le nord, légèrement pluvieux dans la matinée sur le nord de la Bretagne et sur la Normandie avant que le soleil ne s'y fasse une place. Donc après les pluies de ce matin, partout ailleurs les éclaircies seront belles jusqu'à ce que les orages n'arrivent sur la partie est de la France. Ce matin, comptez 19 degrés à Brest, 23 à La Rochelle, 24 degrés à Lille, 25 à Paris, Besançon et Lyon, 27 degrés à Marseille et sur la Corse. Il est 6h40.
Pile.
Des France Culture. Bonjour, Jacques Meunier.
Bonjour, Clara Lecoq-Réal.
Et à 6h40, c'est l'heure de votre journal des idées. Vous vous penchez ce matin, Jacques, sur la notion de commun, utilisée notamment pour désigner des espaces naturels à protéger. Elle est aujourd'hui mobilisée en défense de l'Amazonie.
Oui, et cette notion, Clara, est due à l'économiste Elinor Ostrom. Et elle renvoie à l'idée d'une gestion collective et locale des ressources. Elle est proche de la notion de patrimoine commun de l'humanité qui implique que l'exploration de certains espaces comme la Lune, les fonds marins ou les pôles doit se faire pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays du monde. Dans Le Monde, en page ID, Philippe Descola s'y réfère à propos de l'Amazonie. L'anthropologue professeur au Collège de France qui a longtemps enquêté sur les givarots hachoirs dans la partie équatorienne de l'Amazonie estime qu'il faudrait conférer une personnalité juridique à des milliers lieux de vie tels que la forêt amazonienne, à l'instar de la rivière Whanganui en Nouvelle-Zélande. Il évoque les près de 600 ethnies parlant des langues différentes en Amazonie, dont la plupart se sont trouvées confrontées au colonialisme interne, aux industries extractives, pétrole et or surtout, aux exactions de mouvements paramilitaires, à l'invasion de leur territoire, à l'ennoiement par des barrages. Avant d'être poumon de la planète, l'Amazonie est d'abord leur milieu de vie qui est détruit par les incendies, le lieu où ils sont nés, où ils chassent, où ils interagissent avec des esprits. Certains s'en tirent mieux que d'autres. Les givarots de l'Équateur, qu'il connaît bien, mènent des combats efficaces contre les compagnies minières, chinoises et pétrolières parce qu'ils sont nombreux et qu'ils ont une réputation guerrière dont ils jouent fort bien pour effaroucher ceux qui convoitent leur territoire. Mais en général, que peuvent quelques centaines d'individus contre les milices des grands propriétaires terriens qui déboisent la forêt afin de créer des pâturages qu'ils revendent ensuite à des entreprises de l'agrobusiness. Lorsque les Amérindiens défrichent une clairière pour faire un jardin, explique l'anthropologue, ils l'abandonnent au bout de quelques années et la forêt recolonise bientôt l'espace déboisé. Il en va tout autrement avec les défrichements massifs pratiqués par la colonisation encouragée par l'État. La forêt ne peut plus se reconstituer et les sols sont exposés à une dégradation rapide provoquée par les pluies et le soleil qui transforme le milieu en savane. C'est pourquoi Philippe Descola invite à dépasser la conception westphalienne du territoire qui prévaut depuis quelques siècles, des États exerçant leur souveraineté sur des espaces plus ou moins reconnus par leurs voisins. Les Français seraient réticents à voir la Provence administrée par l'ONU à cause des feux de forêt, dit-il. Mais si la notion de commun au sens de la personnalité juridique d'un milieu de vie était étendue partout, alors la question se poserait de façon tout à fait différente. Alors comment protéger les espaces vitaux pour l'humanité? Sur le site du quotidien La Croix, Estelle Motion et Marine Lamoureux soulignent que l'action des traités et fonds de protection reste limitée par la souveraineté nationale, mais elles évoquent le cas de la Colombie où en 2018, la Cour suprême, saisie par une ONG, a reconnu à la partie colombienne de la forêt tropicale le statut de personnalité juridique et le droit d'être protégée à travers un pacte associant l'État, les autorités locales, les populations autochtones et les générations futures. Et elle rappelle que certains espaces sont protégés depuis longtemps. Dès 1959, un traité fait de l'Antarctique un territoire neutre dédié à la recherche. Paraphé au départ par 12 pays, il réunit aujourd'hui 54 signataires. Depuis lors, un protocole relatif à la protection de l'environnement, entré en vigueur en 1998, complète le dispositif en faisant de l'Antarctique une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science, y interdisant toute exploitation des ressources minérales. Jean Jouzel, climatologue et ancien vice-président d'un groupe de travail du GIEC, déplore que ces mesures n'aient pas été prises en Arctique, où plusieurs pays ont des intérêts économiques directs. La dernière livraison de la revue Espace et Société est consacrée à la question des biens communs en relation au territoire. L'édito rappelle que le bien commun désigne une aspiration, un intérêt partagé qui se situe au-delà des intérêts individuels et de l'État. Vanessa Isseri et Sylvie Lardon, chercheuses à l'INRA, ont mené l'enquête sur le faccinal brésilien, une forme de communauté rurale caractérisée par l'usage commun des terres agricoles dans un système agro-silvo-pastoral, maintien et transmission des savoirs traditionnels, résistance au modèle productiviste de l'agriculture moderne au Brésil, préservation des ressources naturelles. Ces communautés s'organisent suivant les principes de l'autogestion, du travail collectif et du partage des ressources. Autrefois considérées comme passéistes avec l'émergence des enjeux écologiques et sociaux depuis la modernisation agricole, la production traditionnelle revient à la mode et incarne un modèle alternatif d'agriculture. Et oui, vous écoutez bien France Culture, le jingle a changé, mais
ça vous surprend,
vous êtes toujours voilà, sur notre belle chaîne. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour, bonjour à tous.
C'est l'heure des enjeux internationaux à 6h45. Au sommaire aujourd'hui, la drôle d'alliance qui se dessine en Italie entre le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles.
Oui, les tractations doivent reprendre ce matin pour former un nouveau gouvernement. Vous savez que le ministre de l'Intérieur et vice-premier ministre Matteo Salvini a fait exploser la coalition que formait son parti d'extrême droite, la Ligue, avec le mouvement 5 étoiles. Parmi les hypothèses les plus probables, et malgré quelques tensions hier et de longues discussions inachevées cette nuit, celle d'une alliance entre ce même mouvement 5 étoiles, qualifié régulièrement de populiste, et le Parti démocrate, première force de gauche. Leur volonté commune est de faire barrage à l'extrême droite de Matteo Salvini, quitte à constituer cette alliance de deux partis qui n'ont pas grand-chose en commun. Bonjour Ludmila Hakon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Italie, chercheuse associée à Paris 1. Les tensions et les pourparlers entre Parti démocrate et Mouvement 5 étoiles portent sur la répartition des postes ministériels. Les deux partis doivent aussi se décider aujourd'hui, dernier délai. Alors ils se disent optimistes, mais ils doivent se décider sur un programme commun. Que peuvent se trouver en commun ces deux partis qui se sont contredits l'un l'autre, désapprouvés, attaqués à maintes reprises quand le mouvement 5 étoiles était aux affaires et le Parti démocrate dans l'opposition?
Eh bien, le Parti 5 étoiles, il était aux affaires avec la Ligue, ce qui donne une configuration un petit peu particulière. L'ADN de 5 étoiles n'est pas celui d'être un parti d'extrême droite comme celui de la Ligue. Et il y a une alliance aux circonstances qui a été faite parce qu'il y avait des blocages institutionnels du fait d'une loi électorale un peu particulière qui a conduit à cela. En réalité, il y a plus de points de convergence entre 5 étoiles et le PD, ont du moins leurs électeurs, qu'on peut imaginer. Ne serait-ce que parce que beaucoup d'électeurs de 5 étoiles, ce sont des gens qui viennent de la gauche ou qui sont des déçus de la gauche, vous voyez.
Ouais, donc ce serait pas une trahison des électeurs que de constituer cette alliance.
La fracture, elle est plutôt, je dirais, à la fois générationnelle et aussi liée au fait que lorsque le Parti démocrate a été aux affaires, eh bien à la fois il a été quand même éclaboussé par quelques scandales, il faut pas l'oublier, mais aussi par une gestion assez verticale de la politique qui a été considérée comme pas représentative d'une certaine couche sociale plus jeune, de ceux qui sont aujourd'hui en marge de l'emploi le plus sécurisé, les riders, comme on dit, c'est-à-dire les livreurs. Je pense à la déclaration de Berlusconi quand il a attaqué 5 étoiles en le traitant de parti des chômeurs. Hein. C'est donc le parti un petit peu laissé pour compte de ceux qui ont ne se sont pas sentis représentés, qui ont été laissés de côté, qui ont eu l'impression de ne pas être entendus, écoutés et représentés au niveau politique. Voyez.
Matteo Renzi, c'est l'ancien président du Conseil, il est aujourd'hui sénateur démocrate, c'est lui qui a appelé à faire alliance avec le mouvement 5 étoiles. Mais en 2018, quand c'était déjà présenté l'occasion de former une coalition, parce que les deux partis avaient fait de bons scores aux élections, il avait dit, Matteo Renzi du mouvement 5 étoiles, il n'est pas possible de faire alliance avec un mouvement qui est contre l'Europe, contre la science et qui vit au rythme des algorithmes sans démocratie interne.
Oui, il y a des batailles de leadership à la fois individuelles et collectives entre ces deux partis. Il faut pas l'oublier. Il y a évidemment une culture politique qui est assez différente. Quand je parle de génération, ce n'est pas rien. La propension d'utiliser les réseaux sociaux, Internet, les plateformes informatiques de 5 étoiles, c'est aussi une question de génération qui n'est pas tout à fait dans la culture très institutionnelle du PD, qui est très organisé dans des formes un petit peu plus anciennes. Donc il y a déjà un choc des générations quelque part, mais aussi une question de compétition. Quand un tiers des électeurs de 5 étoiles viennent du PD, il est clair que le PD a eu peur d'être un petit peu vidé de son sang, si je puis dire, par 5 étoiles, et donc de se retrouver dans une compétition sur des thèmes semblables.
Un tiers des électeurs du mouvement 5 étoiles venaient en 2018 du Parti démocrate.
Absolument.
D'accord. Alors, sur quoi, encore une fois, peuvent-ils se mettre d'accord? Quels étaient les grands dossiers? Il y a évidemment la question du Lyon-Turin. Le Parti démocrate était très favorable à ce chantier qui, d'après lui, allait créer des emplois. Le mouvement 5 étoiles disait que lui, c'était une ligne rouge à ne pas franchir. En tout cas, il y a comme ça des dossiers très précis sur lesquels ils ont vraiment à négocier de pied ferme.
Oui, parce que 5 étoiles a une prise de position très forte anticorruption. Très très forte. Et c'est vrai que les grands travaux en Italie, traditionnellement, ont généralement donné lieu, les grands travaux et les marchés publics, à des scandales et des affaires de corruption faramineux, avec aussi des odeurs de mafia dans cette affaire. Il y a aussi la question de l'écologie à laquelle 5 étoiles est très attaché, mais il y a des questions sociales sur lesquelles les deux parties peuvent se mettre d'accord. Et d'ailleurs, je note quand même que Landini, le secrétaire de la CGIL, s'est prononcé en faveur d'une présidence Conte. Or, le secrétaire de la CGIL, qui prend position pour Giuseppe Conte, c'est quand même pas rien. La CGIL, c'est un syndicat structuré, ancien, très lié au PD. Vous voyez, donc c'est que sur des questions sociales, sur des questions du travail, parce que la situation est très grave. Les effets de la crise de 2008 ne sont toujours pas résorbés, et en même temps une crise internationale qui est liée à plein de questions, que ça soit les guerres commerciales USA, Chine, etc., complique la donne, et croissance zéro, on ne peut pas se permettre non plus de ne pas trouver des solutions.
Le Parti démocrate a posé 5 conditions pour une coalition de l'ensemble de la gauche avec le mouvement 5 étoiles, entre autres une appartenance loyale à l'Europe, le respect de la place centrale du Parlement, un changement de cap radical dans la gestion des migrations et un virage économique vers davantage de redistribution et d'investissement. Ça fait quand même beaucoup de transformations pour un parti qui est tout jeune. Comment le mouvement 5 étoiles peut-il ne pas y perdre son âme et donc être rayé de la carte à terme?
Je pense que sur le dernier point que vous venez d'évoquer, à savoir une politique d'expansion et de redistribution, le 5 étoiles ne peut qu'être pour. Sur la question de l'immigration, c'est plus partagé, parce que si vous voulez, c'est quelque chose qui a été un point de fracture à l'intérieur du 5 étoiles. Il y a une grande partie de 5 étoiles qui n'a pas du tout vu d'un bon œil la politique de Salvini au niveau migratoire. Et quand je dois mettre en évidence le moment où les frictions ont commencé à vraiment se mettre en évidence, c'était autour du Sea-Watch. C'est à partir de ce moment-là, vous voyez?
Du navire de sauvetage en mer des migrants. Ludmila Hakon, je voudrais profiter quand même de votre présence ici en qualité d'historienne pour analyser ce que voudrait dire un tel rapprochement entre un parti traditionnel avec une longue expérience des institutions et un autre qui s'en défie et qui a fait campagne là-dessus.
Oui, parce que c'est à la fois, comme en France comme ailleurs, il y a un clivage un petit peu entre les élites et ceux qui sont plus dans la base de la société. Mais il y a aussi un changement, à mon avis, de phase qui a lieu, parce que les partis comme le Parti démocrate sont issus d'une longue tradition, mais aussi assez attachés à ce qui a été un petit peu ce qu'on appelait la Première République en Italie, et qui était aussi quelque chose qui était issu de la période de la guerre froide, disons les questions. Et le clivage, le tournant, ça a été autour de 92-93, lorsque Berlusconi est arrivé, le système électoral a changé, il y a eu une autre phase encore, et lorsque il y a eu les élections du 4 mars et que Di Maio est allé à la tribune en disant c'est la Troisième République,
Luigi Di Maio, 5 étoiles, a dit en effet c'est la Troisième République qui n'existe pas en Italie encore.
Voilà. On peut dire que c'est une incantation. Je pense que c'est vrai dans le sens où vraiment le fonctionnement actuel des institutions est différent, le fonctionnement de la politique est différent et on est dans une phase autre. C'est-à-dire que 5 étoiles est né en 2009, un an après la crise des subprimes. C'est un parti qui est issu de cette phase-là, qui de fait cette crise à la fois économique mais aussi de confiance par rapport aux élites et à ceux qui ont gouverné auparavant. On est dans une autre phase. On n'est plus dans la post-guerre froide de l'époque Berlusconi. On est dans une autre phase où les gens demandent une redistribution, une participation citoyenne, voyez.
Donc ça peut être quand même une nouvelle étape vers un changement institutionnel, vers une réforme institutionnelle. Cette troisième république que Di Maio invoquait de ses voeux, est-ce que le Parti démocrate peut l'entendre, peut discuter là-dessus?
Il peut être pour ou contre. Il y a des faits réels. Lorsque le président de la conférence épiscopale italienne, il dit qu'il ne faut pas laisser le nouveau ne pas advenir. Lorsque nous voyons ce qui se passe, la situation de l'Amazonie, les exigences dans le monde entier de changement au niveau écologique, la participation des femmes qui ne peut plus être marginale, on ne peut plus raisonner comme auparavant.
Ludmila Hakon, cette coalition qui se dessine, elle est tellement hétéroclite qu'elle pourrait n'avoir aucune crédibilité auprès des électeurs et ouvrir un boulevard finalement à terme à Matteo Renzi, comme le craignent les détracteurs de cette alliance.
Il y a des risques, il y a risque de friction, de mésentente, et en même temps, il y a un défi à saisir parce qu'il y a ces nouveaux changements. Est-ce que les plus jeunes et les plus confirmés ont-ils la capacité de s'entendre pour saisir les défis actuels? C'est ça l'enjeu. S'ils ne font pas ça, s'ils continuent avec l'austérité et avec la vieille politique, on risque de créer un mécontentement qui pourrait reproduire ce qui s'est passé le 4 mars, voire pire, une dérive à la Salvini-Meloni. Ça, c'est très dangereux, c'est possible. Il faut saisir, à mon sens, les défis actuels et ne pas créer un mécontentement et un vide dans la population qui aurait l'impression d'être laissée pour compte.
Merci beaucoup, Ludmila Hakon, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Est-ce qu'en France, les migrants sont vraiment mieux traités que les SDF? L'Europe aurait-elle été fondée sur ordre des services secrets américains? Les OGM sont-ils dangereux pour la santé? Mais surtout, ils sont là, ils sont cachés dans les villes, dans les campagnes. Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais trop souvent des mauvaises réponses. Les idées claires, c'est votre pilule hebdomadaire contre la désinformation.
Les idées claires, Nicolas Martin. Chaque mercredi, retrouvez un podcast audio et une vidéo. Plus d'infos sur franceculture.fr. La nouvelle émission quotidienne d'histoire sur France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Cette semaine, retour sur l'année 1989, une année charnière de Tiananmen à la Stasi, avec vendredi une balade radiophonique en direct de Berlin. Que reste-t-il de la RDA dans l'Allemagne d'aujourd'hui, 30 ans après la chute du mur? Nous en chercherons les traces.
Le cours de l'histoire, de lundi à vendredi à 9h05 et sur franceculture.fr.
Bonjour, rebonjour sur France Culture, il est 6h57 et bonjour à vous Guillaume Erner.
Et bonjour à vous Julie Gacon.
C'est l'heure de votre humeur du jour, on est mal parti.
Vous pouvez me tutoyer.
Non mais pas du tout, on est mal parti Guillaume Erner. Pendant les vacances, vous avez tout oublié.
Et c'est malin, vous avez notamment oublié votre mot de passe, s'agit-il de Julien Gacon 2?
Ah non, j'ai pas oublié,
à moins qu'il s'agisse, mais si vous l'avez complètement oublié, à moins qu'il s'agisse de la marque de votre première voiture, Julie, mais comme vous n'avez pas le permis, bref,
mais si,
comment s'en souvenir? Comment se souvenir de vos mots de passe? C'est au pluriel, puisque maintenant, même pour réserver la colonie de vacances du petit dernier, le site vous demande un mot de passe au cas où un pirate informatique usurperait votre identité pour réserver la colo à votre place. Tout se passe tout là, sauf les glaces et les mots de passe. Chaque retour de congé appelle de fructueux échanges avec le service informatique pour réinitialiser les mots de passe. On ne mesurera jamais assez le temps que l'informatique nous fait perdre, la productivité détruite par l'ordinateur. Aujourd'hui, pour bien vivre, je veux dire vivre normalement dans un environnement numérique, il faut maîtriser la technologie Enigma, autrement dit être capable de retenir une palanquée de mots de passe, à moins bien sûr que l'on puisse maîtriser un système de codage perfectionné, un système de codage qui permettra de les retrouver tous, parce que ou bien vous les écrivez en tout petit dans votre portefeuille, ou bien vous utilisez un moyen mnémotechnique. Alors par exemple, le sixième mot de la recherche du temps perdu, mais après 2 mois de vacances, va te souvenir de l'endroit dans Proust où vous avez caché votre mot de passe. Heureusement, il n'y a pas de problème suffisamment complexe que les informaticiens et autres génies de la Silicon Valley ne réussissent pas à complexifier encore, d'où l'apparition de gestionnaires de mots de passe censés vous éviter d'utiliser mot de passe comme mot de passe, ou bien 28 0869 si vous êtes né le 28 août 1969, dans lequel cas j'en profite quand même pour vous souhaiter bon anniversaire. Ce qui est très bien avec un gestionnaire de mots de passe, outre le fait qu'il va falloir payer pour se retrouver le mot de passe de la colo du petit dernier, ce qui est très bien, c'est qu'il va falloir se souvenir de ce machin, un beau projet de devoir payer pour se retrouver dans le dédale de mots de passe qui jalonne désormais nos existences. Mais au fait, où allez-vous cacher le mot de passe qui va vous permettre d'accéder à votre gestionnaire de mots de passe?
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Et le programme du jour, deux regards sur la féminité, sur la sensualité féminine, deux regards de femmes post-MeToo, une fille facile, c'est le film signé Rebecca Zlotowski mettant en scène une créature irréelle jouée par Zaya Dehar, et le témoignage d'Emma Becker, jeune romancière qui a passé 2 ans comme pensionnaire dans des maisons closes à Berlin. En attendant, il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un excellent réveil.